Active Chorale, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 29e journée de Betclic Elite, la victoire de la chorale de Rouen contre Cholet sur le score de 82 à 69. Pour débriefer ce match, à mes côtés, Nicolas Briat. Bonsoir Nicolas.
Alors peut-être.
Vous aurez la ref hein, si vous aimez l'athlé sur France Télévisions. François Pertil, la bonne vacheresse. Bonsoir François.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous.
Et Alexandre Combe, number one sur X et sur le forum corallien. Bonsoir Alexandre.
Eh ben bonsoir à tous.
C'est le match dont on ne rêvait presque plus. Une équipe rouennaise combative de la première à la dernière minute. Une équipe rouennaise à droite, à longue distance, qui envoie des contres, envoie... Alors non, j'allais dire des alley-oops, mais on va peut-être pas avoir cette gourmandise-là. Mais un match à suspense, un match spectaculaire d'une certaine manière, par l'intensité déployée et la victoire au bout. C'était vraiment le match dont la chorale de Rouen avait besoin, comptablement, et plus que comptablement, elle avait besoin de cette prestation pour aller remplir un petit peu la jauge avant les 5 dernières journées pour continuer de batailler pour le maintien.
Oui, surtout une chorale qui a joué des deux côtés du terrain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas...
Puisque la dernière victoire, souviens-toi, face au Metz, tu étais resté un petit peu sur ta réserve parce que 93 points concédés, voilà, face à la Lanterne Rouge.
Ce soir, on est à moins de 70 et comme tu dis, ça a été constant du début à la fin.
Record de la saison à domicile.
Avec parfois des coups durs, des joueurs 4 qui sortaient, enfin... Dans la presse, Marc avait dit qu'il allait compter sur les joueurs qui avaient envie de se mouiller pour le club. Et ben, il a joué à effectif réduit, ça a fonctionné ce soir. Je suis content pour lui et pour le club.
Ouais, clairement. Toute façon, quand on gagne, on est à moins de 80 points. Là, 69, donc la victoire est acquise, comme a dit Alex, des deux côtés du terrain. Moi, avant qu'on continue, j'aimerais noter deux choses. Je crois que je l'ai jamais fait sur le podcast, mais ce soir l'arbitrage m'a. Alors ça nous a pas empêché de gagner, hein. Puis, mais là il y avait de telles incohérences. Parfois j'en ai jeté mes béquilles, vraiment par terre. J'étais excédé par rapport à certaines décisions.
Si vous avez retrouvé les béquilles de François, hein, vous appelez Active.
Vous nous
venez. 417 420 400.
Et puis c'est un fait. Hein, on en parlera peut-être après, mais Jordan Tucker qui n'est pas rentré du tout. Et c'est peut-être lié aussi à notre bonne défense. Parce que Marc a peut-être fait un choix. Il a mis sur le terrain ceux qui avaient envie de défendre, envie de bouffer la balle, envie de se battre pour le club. Et donc, il y a eu un choix de fait voilà, qui n'a pas plu à Jordan Tucker, mais on en parlera peut-être.
Il y a eu une petite altercation en fin de match sur le parquet entre Jordan Tucker et le président Emmanuel Brochot. Certains l'ont vu en direct sur leurs yeux dans le rond central lorsque les joueurs tapaient la main du président. Donc, Jordan Tucker, a priori, peu de chance qu'on le revoie porter le maillot de la chorale de Rouen. Et je ne suis pas sûr que grand monde va pleurer son sort. Alors, on va se concentrer sur ceux qui ont joué. Et toi, Nicolas, j'imagine que tu vas distribuer des bons points collectivement.
Oui, alors, le 69 points encaissés, il est bien. Mais Cholet, ce n'est pas une méga machine offensive. Donc, c'est une stat qui est intéressante parce que ce n'est pas arrivé souvent.
Ouais, c'est 80 points par match, Cholet, cette saison.
Ouais, mais regarde combien
Nico, on a. Nico.
Moi, c'est le 82
Nico, que
points.
Que ce soit Cholet et Metz, en face, on est à 69 points. Là, tu fais le rabat-jour.
Non, mais je dis, c'est bien. Mais le 82 points marqué avec une équipe aussi agressive en face, eh ben, ça me parle. Parce que combien de fois on en a reproché l'équipe, dès que le niveau monte en face, dès que c'est un peu dur, on est trop soft, on n'arrive pas, et ben là, chapeau, parce que vraiment, ça a été très agressif en face.
Oui, ça a été agressif, voire un peu trop. On est habitué au coaching de Villa, j'ai pas la mémoire courte, et je me souviens du coup de poing de Carter contre Portez. C'était déjà Villa qui avait mis une défense très 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 agressive, et le curseur, il est placé haut très tôt dans le match. Et après, ça part sur des bases un petit peu agressives. Moi, je suis pas fan de ce coaching là, mais bon, passons, on a su y répondre. Après, pour tempérer un petit peu ton euphorie, c'est vrai que ce soir ça passe, on a un facteur X à 17 points.
Kadri
nous fait le match de l'année, moi je signe le même à Gravelines. Alors ce soir je signe un petit peu entre bonheur et frustration, parce que quand on voit ce que capable de proposer l'équipe sur un match ce soir, les regrets sont quand même présents au fond de ma tête.
Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut parler d'une équipe ce soir. Elle s'est comportée en tant qu'équipe, cette chorale de Rouen. Ça se voit ben voilà, par les 69 points encaissés, hein, ça c'est pas des exploits individuels, hein, pour limiter un adversaire, c'est des efforts collectifs. Les Rouennais qui sont même devant au rebond, c'est quand même assez dingue. La Chorale de Rouen cette saison, elle est 17e au rebond, en moyenne elle est en déficit de 5 rebonds par rapport à son adversaire. Ce soir elle est à plus 1 face à un joueur comme Nils Sacco qui a plus de 32 minutes et qui prend lui seul 10 rebonds. C'est une performance quand même.
Et c'est vraiment un très bon joueur, Nils Sacco.
J'étais pas loin,
je l'ai regardé tout le match, vraiment moi il m'impressionne beaucoup.
Ouais, il a un gros physique.
Sur le rebond, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a défendu les rebonds à tout le monde. On était 4, 5.
Ça sautait, ça bataillait.
Jamais on a laissé quelqu'un tout seul au rebond, se débrouiller. Enfin, ouais, franchement, ça a changé. Et on l'a suffisamment pointé du doigt.
Bon, cette mention de rebond, elle s'explique aussi par la maladresse Schultez, hein, qui termine à 39% d'adresse, qui a laissé beaucoup de rebonds défensifs aux Rouennais. Ils n'en prennent que 12 offensifs contre 17 pour Cholet. Bon, la Chorale de Rouen ne s'est pas transformée en une équipe de monstres au rebond, mais voilà, ils se sont battus sur chaque ballon.
Ouais, bataille, ouais.
Après, pour corréler ce que tu disais sur pas la naissance d'une équipe, mais en tout cas, ils ont joué en équipe pour une fois. Regarde bien les temps de jeu et tu remarques Seldon américain, 12 minutes. Sur Langevin américain 4 minutes, enfin 5 minutes.
La Chorale termine avec 4 Français sur le parquet.
Hein. Ouais, et Tucker qui joue pas. Et en fait, Marc a fait un choix plutôt de combattant ce soir, clairement. Et il a laissé les joueurs qui n'avaient pas vraiment envie de défendre sur le banc. Alors, ça fait peur, mais parce qu'on a quand même 3 Américains qui jouent pas, hein, ou très peu. Et ce soir, on gagne. Donc peut-être que c'est la recette pour resserrer les rangs. Je crois qu'Alex était fervent de ça. De toute façon, ils font des combattants.
De toute façon, Marc, il a pas le choix. Il est en survie d'un club, d'une équipe. Tu peux pas te reposer sur des gars comme Tucker ou Seldon qui sont là parce qu'ils ont signé un contrat. Même le nouveau, il est parti. On n'avait même pas fini une bière qui était déjà partie. Ouais.
Seldon, là, j'ai des vraies interrogations.
Ça fait peur de voir les attitudes. Wayne Seldon. Je sais pas pourquoi il est venu, qui l'a recruté, qu'est-ce qu'il doit apporter à l'équipe, mais faut mieux faire jouer des jeunes qui ont envie de se battre et de mouiller le maillot, franchement. Et même, on sera plus tolérant avec des jeunes qui font des erreurs plutôt que des mercenaires qui ne font rien sur un terrain.
Ouais, honnêtement, le petit Marsical, il apporte plus d'énergie.
Mariscal. Je crois que tu prononces bien son nom à force.
À chaque fois, attends.
Il va devenir un important joueur.
Mariscal, et tu as raison. Je vais arrêter d'écorcher son nom. Mais en termes d'énergie apportée, le problème, c'est que Wayne Seldon, j'ai rien contre lui, mais quand il est sur un terrain et qu'il ne même pas chercher un rebond alors que c'est son meneur qui mesure 1m32 qui va essayer de le prendre, tu te dis, mais Wayne, qu'est-ce que tu fais, quoi?
Si on veut encore parler maintien, et Nico a dit peut-être. Ça passera par un acharnement défensif de chaque instant. Mais je dis un acharnement, c'est-à-dire mourir sur le parquet. Dans cette équipe, il y en a quelques-uns qui peuvent mourir sur le parquet.
On ne va compter
que sur eux.
Kellen Grady chez les US. Hein.
Eh bien, on le dit depuis le début de l'année, Kellen Grady. Depuis le début de l'année, il a fait une mauvaise passe. Mais depuis le début de l'année, c'est un joueur qu'on apprécie au moins dans l'attitude. Mais les petits jeunes, il faut compter sur eux pour des périodes courtes. On l'a vu avec Narcisse ce soir. On doit jouer l'aspect défensif, mais comme des chiens, si on veut ramener quelque chose de positif de Gravelines.
Et t'as raison, juste pour finir, sur les jeunes, mais les jeunes le font. Tu sais, les gamins comme Mariscal, TPJ, et même le petit Ngoy, tu leur laisses, et tu as tout à fait raison, sur les courtes périodes par contre, parce qu'ils dépensent tellement d'énergie à défendre.
Ils peuvent sur des petites erreurs.
Et voilà, mais sur ces petites périodes-là, ils peuvent, mais tu vois, amener une intensité telle que ça va emmener l'équipe après, et ça va créer des choses positives.
C'est Ngoy, il ne faut pas le mettre dans cette catégorie. Hein. C'est Ngoy, ce n'est pas un joueur qui va t'amener de l'intensité.
Non, mais...
Par contre, il t'a amené autre chose. Est-ce qu'on en parle tout de suite, d'ailleurs?
Il faut qu'on en parle, parce que pour moi, il a fait basculer le match. On était à peu près serré, il rentre, il commence à distribuer des contres, à prendre des rebonds, et c'est à ce moment-là moi j'ai le sentiment qu'on se dit, en fait, on peut peut-être le gagner celui-là.
10 minutes, 4 points, 5 rebonds, 2 contres pour Narcisse Ngoy.
Et ça marque.
Et puis il emmène le public avec lui. Enfin, à ses dépens, parce que c'est pas un bout en train, il vient là pour
amener
le public. Mais le public, il voit ce joueur, il le voit traîner sur le banc des pros depuis des semaines, à jamais entrer en jeu, alors qu'on se coltine à Cyril Ngivine qui, franchement, exaspère tout le public de Vacheresse.
Après, sans vouloir trop enfoncer Cyril, c'est vrai qu'il fallait un gabarit de haute taille pour matcher avec Tilly et Nils Sacco. On y a pensé tout de suite à Ngoy. Sur une courte période, il peut dissuader le pivot, le numéro 4.
Moi des joueurs qui contrent sur des shoots à 3 points adverses,
c'est ça.
Comme il a fait, à part Wembanyama, je n'en ai pas vu 36 à Vacheresse.
Il a pris un risque, parce qu'il monte très haut, c'est Campbell qui compte. Donc si l'autre fait une feinte, il passe, il est mort, mais il l'a fait. Il est monté très haut, il l'a contré très bien.
Voilà. Et on insiste bien sur la période de jeu, parce que il doit écraser deux dunks, il le fait pas. Il a eu des déchets.
Je pense pas qu'il soit fait pour. Là, il joue 10 minutes 23. Il n'est pas fait pour aligner 10 minutes de défi. Mais 3, 3 minutes, allez, 3 minutes, 3-4 minutes par carton. Voilà. Il est capable.
Et je pense qu'il a même peut-être joué une minute de trop. Après,
oui, envoyé, en plus, lui, en termes de body language, voilà. Envoyé qu'il
mais il ne faut pas faire une croix sur Langevin. Langevin, il a du mal avec les gabarits qui sont trop longs. Mmh. Peut-être qu'on comptera sur lui.
Il a du mal globalement avec la Betty Kelly. J'ai l'impression que Langevin, c'est ça le problème.
Ce qui est aussi, tu sais, tu parlais d'enthousiasmer la salle par rapport à Ngoy, mais il y a un moment, je crois que c'est Yanis, donc le pivot, qui fait deux lancers qui rate 0 sur 2. Et Ngoy, juste après, qui fait ses deux lancers, qui met les deux. Donc tu vois le public
avec un shoot.
Un shoot très droit, très tendu, ouais. Et ça, le public est rentré dedans. Mais ouais, mais bon, ça fait plaisir à tout le monde.
Il a des paluches qui font trois fois la taille du ballon. C'est pas évident. En fait, un lancer avec une balle de tennis, on verra.
Non, c'est très très dur. Mais en tout cas, très 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 belle rentrée, ouais, effectivement. Il a amené une petite bascule, t'as raison, Nico.
On écoute Marc Bergeau à propos du match de Narcisse Ngoy.
Aujourd'hui, je suis très content de l'apport de Narcisse, effectivement, parce qu'il a. Il a été très présent, très très dissuasif dans la raquette, et ça c'est bien. Mais je suis content de l'apport de tous ceux qui sont rentrés en jeu, même du petit Sam Mariscal, même de Théo s'ils ont eu Pierre Justin, s'il a eu moins de temps de jeu que d'habitude. Mais quand on a Sekou Doumbouya qui est à ce niveau-là, c'est plus compliqué. Non, je suis content de la performance de tout le monde. Vraiment, de l'implication défensive de tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir.
Ouais, mais c'est un match qui peut être le début de quelque chose de nouveau. Pour deux raisons. On parlait du banc qui a été raccourci. Toute la saison, on a subi les événements. Toute la saison, on a été en retard sur les choses. Là, on a pris des décisions et en plus, elles payent. Donc ça, c'est positif. La deuxième chose, c'est que Fabien, tu disais, on a fini le match avec 4 Français sur le terrain. On n'a pas que fini le match avec 4 Français sur le terrain. On a joué quasiment toute la deuxième période avec 4 Français sur le terrain.
Regardons les temps de jeu. Hein. Le plus haut temps de jeu, c'est Sekou Doumbouya.
Et bon, ça, c'est pas fréquent à la chorale. Hein.
Plus américain des joueurs français, on en parlera. Mmh. Sekou, il fait près de 37 minutes. DJ Cooper, 32 minutes. Après, on a un Antoine Diot. Antoine Diot, c'est le joueur, on le voit pas, mais il est là. Il va à 30 minutes. 30 minutes de temps de jeu pour Antoine Diot. Et son grand âge, hein, 35 ans, il me semble. Antoine Diot, Yanis Morin, près de 27 minutes. Kellen Grady, 25. Kadri Mouandadze, plus de 20 minutes. Bah, évidemment, il te cure 0 minutes. Donc, voilà, mais les donner à quelqu'un, les minutes. Et celle d'un emploi de 12.
Les Américains ont eu très peu de temps de jeu. Donc, forcément, après, c'est français chez nous. Mais ça a fonctionné.
Alors, est-ce qu'on parle de l'homme de ce match, quand même ? C'est Sekou Doumbouya. 33 points marqués, 5 sur 6 à 3 points. Il prend 3 rebonds. Bon, il a un énorme temps de jeu. Il faut quand même avoir la caisse hein, pour les faire, les 37 minutes qu'il fait, et encore rentrer les paniers en fin de match. Ce joueur
après les jeunes,
est exceptionnel.
Après les jeunes, tu sais, il n'a pas 35 ans.
Oui.
Heureusement qu'il peut les enquiller à cet âge-là.
Avoir un tel niveau sur 37 minutes,
il faisait
en mettre
très chaud,
combien de joueurs joue 37 minutes.
Spencer, Sailors, Harper, il le faisait tout le temps. Non, mais c'est vrai, il le faisait. Donc pourquoi pas lui? Il est jeune, il a tout à prouver, il veut se montrer.
Mais là, on a parlé des erreurs de casting et en début de saison et sur des joueurs recrutés en courte saison comme Seldon qui, quand même, commence de plus en plus à ressembler à une erreur de casting. Sekou Doumbouya, c'est quand même.
Et puis il faut voir les shoots qui rentrent à la fin.
Oui, mais justement,
les
shoots qui rentrent, des fois, c'est quand même. Ils sont ultra durs. Imagine, il l'aimait pas.
Il l'aimait.
Ouais, mais
il
l'aimait. Non, mais.
C'est pour ça que c'est impressionnant.
Non, ce soir, il l'aimait. À Gravelines, il shoot autant. Il l'aimait pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a des fois, il faut aussi qu'il prenne moins le jeu à son compte.
C'est pour ça que je veux tempérer un petit peu les ardeurs de ce soir. Parce que t'enlèves un tiers à ses coups et t'enlèves le facteur X, ce soir, on prend pas. Donc, on est très content de l'apprendre. Moi, je suis un peu impressionné. C'est vrai que ses coups, j'avais tiré dessus un petit peu sur les deux derniers podcasts, parce qu'un joueur qui pense qu'à ses stats offensifs, ça, je déteste. Il a continué, mais par contre, il a mis des bras en défense. Moi, c'est ce que j'ai regardé chez lui, et honnêtement, François, ce soir, mettre des shoots aussi difficiles avec un temps de jeu aussi haut, c'est la vérité des grands. Alors, franchement, ce soir, il a marqué des points pour l'année prochaine, mais pour lui, hein, évidemment.
Est-ce que la présence en face de Tijan Salin, qui est un peu, finalement, le Sekou Doumbouya des 5
match,
ans,
il y a eu match,
dire,
y a
en
match entre eux.
Presse, parce match. Que Tijan Salin, il a 18 ans, il est dans les mock drafts annoncés.
Moi, j'ai vu Salin qui allait l'aider à se relever. Il y a un respect entre les deux et ils savent qu'ils vont peut-être pas matcher dans la même ligue, mais en tout cas, il y avait vraiment un match ce soir. Et moi, ce soir, Sekou, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Autant les autres matchs, mettre 30 points en faisant le plus en défense, moi, ça me plaisait pas énormément contre les Mets et contre Chalon. Là, ce soir, c'est 37 points, des shoots très, très contestés, très difficiles à des moments cruciaux.
Ouais, mais qu'il aurait pu ne pas prendre, en fait. T'es ouais, coach, mais... tu, il ouais, prend
dans cette équipe.
Non, mais s'il le rate, ouais, tu gueules.
Dans cette équipe, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que je veux temporiser un petit peu,
tempérer
par contre un peu le bonheur, un peu le bonheur. C'est vrai que t'enlèves ses coups. Derrière, c'est un peu compliqué pour marquer des points. Donc,
ah bah, il prend 20 shoots à lui tout seul. Il prend le ouais. tiers des tirs rouennais.
Hein, après, voilà, il bouffe les shoots. Hein. Ce soir, Cooper, il prend que 2 shoots. Donc, 0 point, mais il en prend que 2.
Ouais, 12 passes décisives. Hein. Cooper, il après, est voilà. sur registre ouais. passeur aujourd'hui à 200%.
Ouais. Après, il est plus impliqué en défense.
Non, mais c'est ça. Après, c'est cool, il est chaud ce soir. Stratégiquement, tu donnes la balle au mec qui est chaud. Hein. Celui qui sent le shoot, regarde Kadri ce soir, il a eu des ballons, les amis, et ils ont continué à lui donner. Et ça a été une très bonne décision. Hein.
Tu vois, tu parles de recevoir les ballons. Pour finir, peut-être juste sur Seldon.
Il n'en reçoit pas.
Il y a un moment, ça m'a marqué. On fait une remise en jeu sous le panier de Cholet, et Seldon est tout seul. Il est tout seul. Ouais. Cooper le regarde
ouais.
et il balance la balle. Ça, à c'était pas Grady, mais je me suis dit waouh, c'est quasiment humiliant.
Ça. Oui, mais en fait, ouais. dans son positionnement, quand tu vois que le jeu vient pas vers toi, bah tu fais un effort supplémentaire, comme le fait Grady en coupant, tu vois. Franchement, il a un body langage qui était catastrophique.
Je dis pas que Seldon est une victime. Je pense qu'il y a sans doute quelque chose. Parce que pour que Cooper, il refuse une passe gratuite.
Ouais. C'est pas que ce match. C'était déjà avant. Donc,
est-ce que tu vois, celle-ci, elle n'est pas forcément marquée, mais une autre, c'est pareil. Il est tout seul. Et c'est un choix délibéré de ne pas lui donner. Donc, tu as raison. Il y a quelque chose de sous-jacent qu'on ne sait pas. Alors, c'est peut-être pas grave, mais...
Oui, il y a un joueur que j'ai envie de faire ressortir, c'est Kellen Grady, parce que bah, ce soir, 25 minutes, 9 points, 3 sur 5 à 3 points, 4 passes décisives, et puis bah, tout ce qui ne rentre pas dans les stats, hein, Kellen Grady, mais voilà, il bataille. Enfin, si Cholet termine à 69 points, il a sa part là-dedans, ce joueur, et il est dans le 5 de départ. On sent qu'il a la confiance de Marc Bergevin, malgré sa saison compliquée.
Eh bien, parce qu'on retrouve le Grady du début de saison. Et Marc, il faut qu'il s'appuie sur des gars comme ça qui, j'ai raté un shoot, c'est pas grave, je vais me défoncer en défense derrière. Et c'est ce qu'il fait. Et on retrouve ce côté intense qu'a Grady, quelle que soit la situation. Parce que regarde, offensivement, il y a, je crois, au moins 2 fois, j'en suis sûr, où il va au cercle.
Oui, c'est contre
3 fois. Et c'est contre 3. Voilà. Donc 3 fois, il va au cercle. Il provoque quelque chose. Bon, il se fait contrer, mais tu vois, il provoque quelque chose, quoi. Donc on retrouve ce Grady là qui a une finition moyenne. Ce soir, il met quand même des shoots. Donc
c'est un poste 2, c'est pas un poste 3. C'est pas un joueur qui est fait pour jouer du 1 contre 1 par tir au drive. Et ça, on l'a encore plus mesuré ce soir. C'est un joueur qui doit se réfugier sur son adresse et sur sa défense.
Ouais, en tout cas, c'est un joueur déjà qui a un bon état d'esprit. Et je pense que l'esprit passe avant tout. Dans
c'est
cette
de ça dont on a besoin maintenant.
Vraiment. Ouais. C'est au-delà du talent qu'on n'a pas forcément. S'il maintient Ilia, il passera que par un état d'esprit irréprochable. On pourra perdre les armes à la main, mais en faisant des matchs comme ce soir.
Et un autre joueur aussi dont les stats ne trahissent pas finalement son apport, c'est Antoine Diou. Alors Alexandre Bouzidi était encore absent ce soir. Problème physique, je crois, au mollet de mémoire, peut-être que je dis une bêtise.
Non, c'est ça.
Antoine Diou, du coup, 30 minutes de temps de jeu. Pour un petit peu soulager DJ Cooper dans ne serait-ce que les remontées de balles. DJ Cooper, on a quand même deux équipes qui avaient un plan de jeu très différent. Côté Cholte, ça défendait tout terrain dès la remise en jeu avec Nathan de Souza et Enzo Guduccina, dont la mission est de harceler le porteur du ballon.
Comme d'habitude, comme l'a fait Chalon, comme le font toutes les équipes.
Alors Caroane, finalement, on attend presque au milieu de terrain que la remontée de balles se fasse.
Non, mais c'est pour
parce
ça que...
on veut pas user, j'allais dire. Pour rien du cardio, faut quand même gérer les organismes et voilà, c'est pas du tout ce plan de jeu là.
Mais c'est pour ça que Joe il est hyper important. Au-delà des stats, ce soir Joe il est hyper important dans la gestion du ballon, dans le main à main, dans le positionnement des joueurs. Il est hyper important parce que tout le monde veut évidemment couper à Cooper de son pivot et de façon très agressive. Et ce soir,
donc il a aidé aussi à soulager un peu DJ Cooper.
Et puis il s'est sacrifié hein, parce qu'il en a pris des
coups. Ouais,
des coups.
Hein. Non, mais hyper précieux, Antoine Diou.
Et ouais, et ça fait quelques matchs qu'il est comme ça, Antoine. Oui. Hein, ça fait quelques temps qu'on le dit qu'il apporte un réel plus à cette équipe. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais il avait commencé la saison un peu timidement. On attendait mieux de lui. Et là, vraiment, il est dans un rôle presque de capitaine, vraiment.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il porte l'équipe.
Puis,
alors c'est vrai que tu as raison hein, sur les stats ce soir, c'est que 7 points en éval 7. Quelqu'un qui n'a pas vu le match va dire ouais, match moyen d'Antoine, mais non, il a une importance sur le fighting spirit, sur il a été discuté avec l'arbitre là pour la faute parce qu'il comprend pas et c'est bon, il amène plein de choses quoi, il amène plein de choses
à cet arbitrage.
Ben non.
Non, mais c'est quand même incroyable. Si on a une seconde, enfin le nombre de décisions. Il y avait un arbitre qui, à un moment donné, sifflait tous contre nous. Et je te jure, les deux autres, ils se regardaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a sifflé
encore? Le tournant, quand même, c'est quand Enzo Guduccina agresse Antoine Diot. Et finalement, la décision est inversée. Parce que là s'ils oui, avaient maintenu leur décision de sanctionner Antoine Diot, voilà, la salle.
Moi, j'ai senti dès le début que le match allait mal se passer. Dès le début. Parce que Johnson, qui est. Commençait à jouer très dur, un coup de coude, enfin je me rappelle, enfin au démarrage.
Flopé un petit peu aussi.
C'était un petit peu compliqué, donc c'est vrai que Villa nous habitue souvent à cette défense haute très agressive.
Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à cette action, si tu vas jusqu'au bout des choses, à ce moment-là, si Cholet récupère bien la balle et qu'il nous mette un 3 points, d'accord, il passait devant. Or, sur cette action, on récupère la balle et nous, on met un 3 points. Ça fait un différentiel de 6, même un peu plus, qu'on avait, je crois, 2 points d'avance à ce moment-là. Et sur une simple décision arbitrale. Et c'est vrai que Alex, on en a parlé tout à l'heure, et Jean-Denis Choulet à l'époque avait remarqué ce fait-là. Rappelle-toi, par rapport à la faute qu'avait subi Cooper. Enfin, pour lui, il l'avait subi. L'arbitre. Ouais, Limoges.
Avec Appleby.
Ouais. Voilà, avec Appleby, ou Appleby, je sais pas comment on dit. Et c'est vrai que ça peut être des bascules comme ça. Et ce soir, les arbitres, vraiment, ont été incohérents, et deux auraient pu bien faire basculer le match sur des erreurs d'arbitrage qui sont presque.
Au final, j'ai regardé le banc Scholte qui était quand même très agité sur plusieurs décisions. Donc nous, on a le prisme rouennais évidemment, mais je pense
Bien sûr, mais quand même.
S'il y a eu erreur, elles ont été partagées des deux côtés quand même.
Oui. Il y a eu un temps pour nous.
C'est ce qu'on dit tout le temps.
N'empêche que l'arbitrage n'a pas été bon.
En tout cas, il n'a pas influé, à mon sens, sur le résultat final de ce match.
Non, ouais, parce qu'il y a eu des vidéos, parce qu'il y a eu des conciliabules et des choses comme ça. Parce que
ça fait partie de l'arbitrage.
Oui, mais...
On peut se tromper en première intention.
Heureusement.
3 sur un petit terrain comme
et
ça.
Si Kadri ne saigne pas, on perd la balle. Ouais. C'est un truc de dingue. Et anti-sportif derrière. Et s'il ne saigne pas, il se prend un coup en pleine tronche.
À 3, ils ne doivent pas avoir d'angle mort. Le trio arbitral, c'est ça l'intérêt d'être 3.
À un moment, Kadri se fait... poussé en touche, l'arbitre Lorient, il fait t'as mis le pied en touche, balle pour Cholet. Je suis, mais il n'y a pas été tout seul en touche.
Tu te rappelles
le contact, tu subis un contact, on te dit t'as mis le pied en touche, mais il y a faute. Mais moi, mais franchement, là, je devenais fou. Mais bon, après, écoute, on a gagné.
Allez, parlons de la suite. Mercredi, match avancé face à Monaco, 31e journée de Betclic Elite. C'est l'avant-dernier match à Vacheresse, déjà de la saison. La réception du champion de France, qualifié pour les quarts de finale d'Euroleague. Donc, sur le papier, ça paraît injouable. Mais en même temps, Monaco, ils ont laissé quelques matchs à l'extérieur, notamment ces dernières semaines. On imagine qu'à une semaine de leur quart de finale d'Euroleague, ils ne vont peut-être pas envoyer la grosse armée. On peut imaginer qu'un Mike James restera à Monaco, ne fera pas le déplacement.
Alors, ouais, justement, ils jouent quand exactement?
Ils jouent mercredi face à la Coral Rouen. Ils ont gagné hier à Dijon. Après, ce week-end, Monaco rejoue, je vais te dire ça.
Est-ce qu'ils ont un match Euroleague ou pas?
Tout de suite. Non, là, c'est fini l'Euroleague. Maintenant, c'est leur quart de finale. Ils rejouent Monaco.
Le Fener, je crois.
Ils jouent Fenerbahçe en quart de finale le 23. Et donc, avant, ils reçoivent le Portel dimanche à 14h30. Face au Portel. Donc.
Parce qu'après, regarde, s'ils nous gagnent, je pense qu'ils sont presque sûrs d'être premiers ou quelque chose près. Ils ont 4 victoires.
Je pense que là, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'économiser de la fatigue. C'est-à-dire que dimanche, ils jouent à Monaco. En gros, c'est comme un gros entraînement pour eux. Un déplacement, c'est la fatigue accumulée, de la fatigue un peu invisible. Donc, s'il y a un match sur lequel ils doivent faire tourner avant ce match d'Euroleague, c'est le match d'Orwan.
De toute façon, au-delà de ça, faut se focaliser sur nos forces. Oui. Et nos forces actuelles, c'est soit tu te mets minable pour prendre moins de 80 points et espérer quelque chose sur un malentendu, ou soit tu rentres dans un match offensif et là, t'en prends plein la tête. Si on rentre dans un match offensif avec Monaco, on va le perdre. Si on défend comme a su le faire Saint-Quentin à domicile, Saint-Quentin, ils auront rentré dedans. Mais quand je dis rentrer dedans, c'est être agressif comme l'a été Cholet aujourd'hui. C'est-à-dire que tu fais jouer le petit Mariscal, je l'ai bien dit.
Très bien.
Mais tu mets des fautes, tu mets des taquets, tu montres que t'es pas là pour encaisser 100 points.
À la Villa.
Et là, tu peux peut-être, je dis bien peut-être, éventuellement, on sait jamais, sur des gros shoots.
Puis on peut imaginer, alors Doumbouya ce soir, il y avait l'application NBA. Ouais. Bon, mercredi, il sera à Monaco, donc il sait que c'est des matchs qui sont regardés. Il aura sa motivation aussi.
Et puis, il y est passé en début de saison à Monaco pendant la préparation. Peut-être qu'il va vouloir leur dire que. Pensez à moi pour l'année prochaine.
Hein. Ouais, en gros, il faut un petit alignement de planète.
Mais qu'on joue des deux côtés.
Cooper, qui est deux côtés. Aussi.
Mais en même temps, tu penses vraiment qu'on peut battre Monaco sans qu'il y ait un alignement de planète?
C'est ce que vous êtes en train de dire, donc c'est ce que je te dis.
Les planètes, elles ont tendance à s'aligner là-dessus, parce que tu le joues au mois d'octobre, ce match.
Oui, là, tu le joues une semaine avant l'Euroleague, c'est quand même allez, vaut mieux les jouer à ce moment-là de l'année.
Tu m'aurais dit qu'ils jouaient ce week-end en Euroleague, je t'aurais dit ouais, ils vont mettre l'équipe B et C. Là,
c'est leur dernier déplacement en Euroleague.
Ouais. Ouais, mais bon, s'ils gagnent ce soir à Rouen, je pense qu'ils sont premiers. Ils sont tranquilles. Donc, est-ce qu'ils vont pas mettre l'équipe? Ils gagnent sur Rouen et derrière, tranquille.
Et ce match vient avant la finale du maintien sur le parquet de Dunkerque, samedi prochain. Si tu bats Monaco, tu vas à Dunkerque en étant devant au classement, en étant plus relégable.
Mais tu sais quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on a plus de chances de battre Monaco chez nous que Gravine à Dunkerque.
Exact.
À Calais, Dunkerque. J'ai l'impression que c'est plus ça. Moi, je vois pas Gravelines s'écrouler chez
cas,
eux.
C'est la semaine, c'est la semaine décisive.
Oui, mais ouais. Là, tu vois, Gravelines, ils ont failli taper Strasbourg. Ils perdent au moins 3. Au niveau du talent, c'est un peu plus fort chez Gravelines.
Ce match de soir, cette victoire, enfin cet après-midi contre Cholet, elle te montre une facette qu'on avait presque oubliée de cette équipe rouennaise. On l'a pensé pas capable de produire ce genre de match.
La hargne défensive. S'ils ont la hargne défensive.
Ce sera un match comme ça, Gravelines, qu'il faudra faire.
Bien sûr, je l'ai dit 3 fois ce soir, s'il n'y a pas de hargne défensive, il n'y aura pas d'exploit possible. Point.
Ouais, non, mais c'est ça, parce que quand tu vois, Cholet va jouer, moi, à mon avis, pour la 6-7-8 en play-off, place, je parle, et on match avec eux. Avec évidemment cette recette-là
dans l'intensité, ouais.
Et on se dit merde quoi. Enfin, c'est dommage. Donc effectivement, si on enlève cette intensité-là, mais juste
parce que Cholet n'a pas été très très fort ce soir parce qu'on a mis l'intensité. Il ne faut pas sous-estimer la victoire corallienne ce soir. On l'a suffisamment fait durant la saison en cassant l'équipe qui a pas été bonne au niveau défensif. Ce soir, Cholet a pas mis ses shoots parce qu'ils ont été défendus, contestés et il y avait de l'intensité. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre le match par le bon bout. Et ce soir, on a su le faire.
Ouais. Pour finir, ce petit incident là, quand même, Tucker, Brochot, est-ce qu'on a besoin de toutes les forces vives? Et allez, on fait le dos rond et on se dit, Tucker, on sait jamais, c'est peut-être lui qui va nous mettre les 3 points, et la gagne un jour ou l'autre, ou est-ce que, allez, on coupe une tête pour l'exemple et on termine sans lui?
C'est pas que couper une tête pour l'exemple, c'est prendre une décision et arrêter de se faire marcher dessus par quelqu'un qui a été non professionnel toute la saison. L'image qui renvoie devant du public, c'est les vacances, il y a plein d'enfants, etc. C'est totalement inacceptable.
C'est le chef d'entreprise qui parle.
Un petit peu.
Ah, moi, je partage à 200% cet avis. Et si on est au classement actuel relégable, c'est à cause d'une mauvaise gestion, justement, des joueurs qui ont fait ce qu'ils ont voulu cette année.
Ouais, et puis Jordan Tucker, il a pas cette intensité défensive qu'il va nous falloir, comme on l'a dit dans ce podcast.
Non, mais lui, c'est un bras, lui, c'est le bras.
Et ouais, mais tu vois, Grady qui commence à bien shooter, Kelrys, il a son bras.
Ce soir, il rentre pas parce qu'on n'a pas besoin de son bras.
Voilà, exactement.
Et puis le symbole est super mauvais parce que c'est le soir où on gagne plus que jamais en équipe qui pète sa cloche sur son cas individuel. C'est un relief, ça met en relief ça. Et vraiment, c'est très marquant. Et ouais, je le redis, moi, c'est inacceptable.
Allez, rendez-vous mercredi 17 avril, 20h sur Active pour le match avancé de la 31e journée entre la Chorale de Rouen et Monaco. On débriefera ça dans Active Chorale, le podcast. Merci messieurs.
Merci, bonsoir.
Active Chorale, le podcast.